Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume, car vous entrez dans la réalité augmentée.
That's one small step for man.
Réalité augmentée, les technos à un autre niveau.
Shut up and take my money!
Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous et je suis accompagné cette semaine par le fidèle Luc Desormeaux. Salut Luc!
Salut Jean-Benoît!
Luc qui est en avance sur moi en plus de ce temps-là. Là. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe.
Ben, je suis une heure d'avance sur toi. Je suis présentement à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick. Fait que je veux dire, j'ai déjà écouté le show qu'on a fait. Puis moi, je te dirais qu'on pourrait arrêter ça tout de suite parce que c'est pas notre meilleur.
C'était la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. On vous dit merci et à la semaine prochaine!
Bye tout le monde!
Salut! Hey, ça ferait un solide show, ça. Ça serait notre meilleur.
Ouais, ça serait le plus court. En tout cas, ça serait peut-être le plus court podcast qui existe, à
ever.
Part peut-être celui de Bruno Georget quand sa femme a accouché.
Ouais, c'est tout.
L'épisode de Rétro Nouveau ouais. Que sa femme avait appelé pour accoucher, là, puis qui était parti, puis il avait mis ça en. Fait que ça serait peut-être égal ou peut-être plus court.
Au moins.
Le record.
T'sais, on aurait le record, mais on n'aurait pas un stunt, t'sais. On n'aurait pas la naissance de quelqu'un live, là, t'sais.
Non, ben, lui glam. Non plus, quand même, là. Il n'était pas dans la salle d'accouchement avec le micro pis tout, là.
Non, mais t'sais, peut-être qu'à faire un podcast court, au moins qu'il y ait une bonne raison. T'sais. Nous autres, on n'aurait même pas ça, là.
Non, ça, je suis juste loin, puis je trouve qu'on n'a pas fait le meilleur show parce que je l'ai déjà entendu.
Ouais.
C'est ça. On y a tellement d'avantages à être un heure d'avance. La prochaine fois, on va essayer d'aller le faire en Europe et voir si c'est quoi la réaction du monde.
Combien de views qu'on va avoir puis tout, ça va à peine de le faire.
C'est ça.
Cette semaine, Luc, tu vas nous parler de quoi comme sujet?
Ben, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les avions et tout ça, donc j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, mais je vais vous parler du film L'Oubli, ou ce qu'on appelle communément en anglais, là, qui est appelé Oblivion, avec l'aimé ou le pas aimé Tom Cruise, ça dépend de votre position.
Il donne une bonne passe de ce temps-là. Tom Cruise, là, ses derniers films, Oblivion, c'est deux bons films. Là. Ces derniers qu'il a fait, il est revenu sur la bonne track, là.
Ouais, mais Jack Reacher, c'était quand même surprenant, là. Mais ça se passe. Autant Jack Reacher que L'Oubli ou Oblivion, ça dépend où tu lis ta critique.
Oui, c'est vrai.
C'est plus clair que ça. Parce que ceux qui vont avec certaines attentes au cinéma ou louent ça avec certaines attentes sont soit déçus, soit agréablement surpris. Ce qui est drôle aussi dans L'Oubli, c'est que le nom de son personnage est très proche de Jack Reacher.
Oui, en plus. Ben, écoute, on va s'en garder pour la critique dans quelques minutes. Moi, je vais parler cette semaine de Saints Row 4, un genre de délire de développeurs de jeux vidéo. Ils sont, écoute, ils ont dû avoir du fun à créer ce jeu-là parce que moi, j'en ai eu à jouer. Je vous en parle plus en détail dans les prochaines. Je voulais qu'on commence en parlant du concours de Zombie Tycoon 2 qui est offert. C'est-tu 2? Écoute, je suis en train de.
Oui, Zombie Tycoon 2.
Eh oui, ok, c'est bon. Ouais.
Là, tu vois que je suis au moins. Moi,
on donne pas du vieux stock, c'est le nouveau qu'on offre.
Ben, c'est drôle que toi t'animes, tu suis pas, là, mais bon, je fais juste comme co-animer puis je suis. En tout cas.
Ouais, mais tu sais. Moi, j'ai une feuille avec des notes à lire, tu sais, puis. C'est important, il faut que je suive ce qui est ça à faire, puis des fois, il manque des notes. En tout cas, tout ça pour dire que le concours se poursuit. Dans le prochain épisode, on fait le tirage. On a déjà plusieurs participants. Merci de vous offrir la chance de gagner ce jeu-là. Et merci encore à nouveau à la gang de Frima Studio de Québec. Martin Brouard qui est venu sur le show pour nous parler de Zombie Tycoon 2. Inviter les gens à aller cliquer sur ça va à peine sur Steam, sur Greenlight. Et de nous avoir offert cette copie-là numérique du jeu pour PlayStation 3. Donc, continuez à participer. Vous êtes bien partis. Vous avez une bonne chance. Vous allez peut-être gagner. Podcast réalité augmentée at gmail.com pour courir la chance de remporter Zombie Tycoon 2. Et on fera le tirage la semaine prochaine pour célébrer le retour de Daniel Carosella dans l'émission Le Simili Lâcheux qui finalement revient dans la réalité augmentée.
Ben, c'est priorité à bonne place.
Ça. Oui, enfin. Ouais. À force de menaces, de tortures, ça a fonctionné. On l'a eu à l'usure.
Ben, je n'ai manqué un bout, il me semble que j'ai pas vu cette torture et non. Non? Il me semble que j'étais pas là, moi, mais. Tu m'invites pas à ces affaires le fun de même. T'es bien plate, hein? Tu gardes ça pour toi le fun.
Ouais, exactement. Je voulais pas
Je te dis.
Je voulais pas te traumatiser, Luc. Je sais que t'es pas un endurci, t'es pas un vieux de la vieille comme moi, là.
Non, je suis quand même assez fragile dans ces affaires-là. J'aime pas la vue du sang.
OK, on a assez niaisé. Bon, allons-y avec le sujet. L'oubli.
Je pensais que t'allais dire que le show est fini.
Oui.
Puis qu'on a fini de niaiser, le show est fini.
C'était la réalité augmentée.
Ah, c'est ça.
On serait le jour de la marmotte. On est tout le temps en train de revenir au même point. Je pense qu'on est vraiment dû faire un épisode court cette semaine.
Ben, peut-être. On verra ce que ça donnera.
Donc, vas-y avec ton film que t'as écouté, Oblivion ou encore L'oubli en français avec Tom Cruise.
C'est ça, ben c'est un film, puis j'ai complètement oublié la prémisse, parce que l'oubli. Non, c'est ça, parce que vu que je t'en parlais avant qu'on enregistre, tu m'as dit « Ah, j'ai pas vu ça, ce film-là, après ça, tu m'as dit « Ah oui, je l'ai vu! » T'avais oublié que tu l'as vu.
Quand je suis allé au club vidéo pour aller le chercher, parce que j'écoutais ça en soirée avec des amis, là, le titre, sa pochette, c'était Oblivion, c'était quand il écrit en petit, genre l'oubli, assez que je savais même pas qu'il s'appelait l'oubli, tu sais. Fait que c'est quand j'ai tapé genre dans Google l'oubli puis avec Tom Cruise, je veux OK, c'est ça. Ah ben oui, je l'ai vu. Mais tu sais, sincèrement, c'est parce que je ne savais pas que c'était ça le titre. C'est vous dire là.
Ben ça, parce que souvent on est exposé beaucoup au titre anglais puis souvent en sous-titre on a le titre français. Mais ça, Oblivion, l'oubli, c'est avec Tom Cruise et Morgan Freeman. Les autres acteurs, je vais passer un peu parce que la majorité sont totalement inconnus. Fait qu'on va on va passer sur leur nom. Il y a peut-être Olga Kurylenko là, qui est connue un peu. Elle a joué un rôle dans James Bond dans le je pense que c'est Casino Royale.
Quantum of Solace,
c'est ça. Elle était dans ça. Donc elle a fait un James Bond. Là. Mais mettons que c'est pas la personne, si je vous dis, nommez-moi une actrice qui a joué dans Quantum of Solace, vous allez me dire elle. Là, vous allez probablement me dire Daniel Craig.
Donc, elle a joué aussi dans Hitman.
Ben, c'est ça. Un autre sûrement excellent film que je n'ai point vu.
Bof.
Parce que la plupart des films de jeux vidéo, j'essaie de rester loin de ça. Pas parce que j'adore les jeux vidéo, mais les films de jeux vidéo sont normalement pas super bons. Hitman, je l'ai pas vu, fait que je peux pas te dire.
Tu fais bien.
OK, bon, c'est pas pire, tu me confirmes ma pensée. Donc, l'oubli, c'est un film de science-fiction. Ça dure 124 minutes. C'est un film, d'emblée, là, je vais vous dire tout de suite, si vous allez louer ça en vous attendant à avoir un film d'action du début à la fin parce que Tom Cruise a un fusil dans les mains sur la pochette, vous allez être déçu. C'est un film, oui, il y a beaucoup d'action par séquence. Il y a des séquences aussi un peu plus longues où on essaie de résoudre un puzzle parce qu'il y a des choses qui se passent et on n'est pas trop certain. Mais bon, l'histoire en gros, c'est Tom Cruise joue le rôle de Jack Harper, d'où tantôt on disait que c'était proche de Jack Reacher.
Ouais, c'était vraiment pas loin.
C'est vraiment pas loin. Quand tu dis Jack, tu dis il doit aimer le nom Jack. Il aurait dû aimer ça s'appeler Jack Cruise, j'imagine.
Ce qui est
probablement pas même pas son vrai nom. Là, en tout cas.
En plus.
Mais en plus. Mais bon, c'est ça, il joue Jack Harper. Lui, son rôle, c'est bon, la Terre a été dévastée par des extraterrestres en 2017. Il y a eu une guerre, bon, puis les extraterrestres ont attaqué, détruit la Lune.
Hey, Luc, juste de même, Thomas Cruise, son vrai nom. Fait que c'est au moins pas si loin que de ça, de son vrai nom.
Bon, mais Tom, c'est le diminutif.
Voilà.
Donc c'est quand même. C'est comme toi et Jean-Benoît t'appelles JB, tu sais. Moi et Luc, c'est dur à raccourcir. D'habitude, le monde dit L.
Elle.
Donc,
OK, je te laisse aller. Vas-y.
2017, la Terre a été détruite, comme j'ai dit. Ben, pas détruite, mais a été dévastée par les changements climatiques dus à la destruction de la Lune par les extraterrestres qui sont les chacals dans la version française. Là. C'est des espèces de bébites qu'on voit plus ou moins. Quand on les voit, ils ont un look un peu inspiré de, je dirais, de prédateur. Ils ont un peu un masque qui ressemble, qui fait penser un peu à prédateur avec la forme du masque et tout ça. Là, pour le restant, il n'y a pas de tentacules bizarres en dessous. On ne voit jamais vraiment leur visage. Donc, ils ont détruit la Terre, attaqué. La plupart des humains ont quitté la Terre pour s'en aller sur une station spatiale et puis en attendant de se faire transférer sur une lune de Titan, qui est une des lunes de Saturne. Là. Bon, ils veulent s'en aller là-bas parce que c'est supposément une lune qui serait habitable pour l'humanité dans le film. Dans la vraie vie, je sais pas. Je ne travaille pas pour la NASA, je pourrais pas te dire. Donc, Jack reste
dans vraie
sur
vie,
une...
non. Hein? Dans la vraie vie, non.
Dans la vraie vie, peut-être que non. Sûrement non. Puis vraiment, ça serait tellement long de se rendre là qu'on serait tous bien vieux pour se rendre.
Mais,
donc, c'est ça, Jack reste sur une plateforme volante dans le ciel avec sa contrôleuse qui contrôle ses sorties sur la Terre parce que eux autres, leur but, c'est vraiment de protéger les espèces de machines qui pompent l'eau de la planète pour pouvoir l'envoyer dans le vaisseau qui est dans l'espace pour qu'ils puissent faire leur voyage jusqu'à Titan puis sauver l'humanité. Donc, il y a sa collègue et aussi qui est sa blonde qui s'appelle Vika qui vit sur cette plateforme-là. Ils sont seulement tous les deux. C'est vraiment une plateforme on a l'impression que c'est vraiment dans le futur. Là, c'est de la plateforme à vol dans le ciel. Il y a une piscine. C'est vraiment drôle, la piscine, parce que la piscine est comme c'est une piscine creusée. Puis le fond est en vitre. Donc, quand il nage, ce qu'il voit en dessous, c'est les nuages. Mm-hmm. Moi, ça serait vraiment pas mon style d'aller nager
le
là-dedans.
Le visuel est écœurant de ce film-là.
Oui, oui. Les effets spéciaux sont vraiment sur la coche, comme on pourrait dire. Là. Ils sont vraiment très bien. Ça a vraiment été bien fait. On se croit par bout un peu dans Star Wars, dans le désert, des scènes désertiques, puis des choses comme ça. Mais c'est vraiment super bien fait, les petits vaisseaux qui se promènent dedans. On peut y croire, là. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien rendu. Donc, il n'y a rien qui accroche, puis on se dit « Ah non, ça se peut pas. » À part, qu'il y ait une plateforme volante, perpétuelle, peut-être.
Leur appartement, là, c'est moi où c'était commandité par Apple. Il me semble que le design était pareil. C'était très, très simpliste, très épuré, très, très blanc aussi, là.
Ouais, peut-être que Apple avait quelque chose à voir là-dedans, mais ça me surprend. On ne voit pas vraiment d'ordinateur. Fait que probablement pas, mais ça a peut-être été inspiré d'un look futuriste, pur et tout ça. Donc, c'est vraiment, ils vivent, c'est minimaliste. Les repas ont l'air assez simples, genre dans une poche. Tout a l'air de Pop-Tarts, là, puis on a l'impression qu'ils mangent plus. Fait que j'imagine que c'est du stock déshydraté. On rentre pas vraiment dans les détails. Mais bon, fait que Jack, avec sa copine Vika, leur travail, c'est vraiment de protéger des drones. Ces drones-là, parcourent la Terre pour essayer de trouver les méchants extraterrestres et les éliminer pour pas qu'ils détruisent les espèces de machines qui pompent l'eau pour la rendre aux humains. Donc, son travail, c'est vraiment ça, d'aller réparer ces sondes-là, puis de les rendre fonctionnelles. Pas les sondes, mais les drones pour qu'ils puissent protéger ces plateformes-là. Les drones sont vraiment, on pourrait dire, badass, là. Quand ça se met à tirer partout, il n'y a pas grand-chose qui survit. Puis ça doit être une mort extrêmement rapide et indolore parce que la personne fait juste comme s'en aller en cendres bien rapidement. Fait que t'as pas vraiment de chance de t'en sauver, mettons. Mais c'est vraiment intéressant. Ils font des bruits aussi assez sinistres. Là. Moi, j'écoutais ça dans ma chambre d'hôtel avec des écouteurs. Là, fait que les bruits sinistres assez proches.
J'imagine dans une salle de cinéma. À R2D2, un peu. Moi, je trouvais qu'il faisait un petit peu des bruits informatisés à la manière d'R2D2.
Mais plus grave, là, vraiment plus méchant. Là. Ça te montrait que la machine qui est en avant de toi, c'est une machine à tuer. Là. Mm-hmm. Fait que, puis à chaque fois que le drone commence à tirer sur des choses qu'il voit qui sont des menaces, puis ils s'en vont vers Jack, qui est pourtant un gentil, il est obligé de s'authentifier au drone parce que sinon, il va se faire éliminer puis c'est pas trop long. Là. Tu t'aperçois qu'il n'y a pas nécessairement... Même s'il répare et tout ça, puis qu'il remet en vie, en gros guillemets, là, parce que c'est quand même des machines, il y aurait aucun remords à le transformer en petit tas de cendres. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc... C'est ça, il y a des grandes scènes d'action, ça se passe beaucoup dans le désert, dans aussi leur espèce de plateforme où ils vivent. Bon, il y a, c'est sûr, c'est pas juste ça le film, parce que si ça serait ça serait trop simple. Il y a une espèce de mystère, il y a des zones qui sont Parce que pour détruire les extraterrestres, l'humanité a utilisé la bombe nucléaire. Donc, en utilisant la bombe nucléaire, ça a irradié certaines sections. Donc, l'humain ne peut plus se rendre là. Puis quand il se promène avec son vaisseau, on voit vraiment les ondes dans son espèce de ce qu'on appelle le head-up display, là. Ce qui est affiché sur son cockpit, sur la vitre de son cockpit, on peut voir qu'il y a des zones où il ne peut pas aller. S'il traverse ça, il va se faire irradier. Puis même dans son vaisseau, il mourrait irradié, tellement que les radiations sont supposées être fortes dans ces zones-là. Donc, il faut qu'il reste dans une espèce de zone protégée où il n'y a pas trop de radiation. Là, on apprend que Jack est vraiment un nostalgique. Il y a des souvenirs, des espèces de flashbacks qui reviennent d'une fille. Toujours une fille, au moins c'est bon, là. Mais où il était sur l'Empire State Building. Bon, on ne nous explique pas que c'est l'Empire State Building, là, mais on comprend avec l'espèce de vue cynique qu'on a, c'est à New York, avec les espèces de jumelles pour voir la ville. Donc, on s'aperçoit que c'est l'Empire State Building. Il est là, puis il y a toujours le flashback de la même fille, puis on ne comprend pas nécessairement pourquoi il voit ce fille-là dans ses rêves. Puis aussitôt qu'il ferme les yeux, il voit ce fille-là, puis il voit cette scène-là, qui est sur l'Empire State Building où il est avec la fille, mais ça reste à peu près là. On voit qu'il collectionne aussi les objets qu'il peut trouver qui ont rapport avec la pré-guerre, donc avant 2017, avant que vraiment les extraterrestres arrivent. Il se rappelle d'avoir entendu qu'il y avait le Super Bowl, qui était le dernier Super Bowl avait été disputé en 2027, puis ça avait été un match incroyable où ça avait fini sur une erreur ou sur un catch incroyable d'une recrue. Bon, puis là, il explique à sa blonde pendant qu'il est justement dans le stade où il y a un drone qui s'est écrasé que ça avait été un match incroyable, puis c'était ça. Puis là, il décrit le match, puis tout ça. Puis il collectionne, il y a une casquette des Yankees de New York. Fait que quand il répare ses drones, il se met une casquette des Yankees sur la tête. Il a trouvé des balles de baseball, des lunettes de soleil, puis il s'est trouvé une petite place cachée entre des montagnes qui n'a pas été dévastée par la guerre puis par le nucléaire et tout ça, parce que c'est protégé par les montagnes, vraiment les grosses montagnes qui font le tour. Puis dans le centre, il y a un lac avec du gazon, puis une petite cabane avec un vieux tourne-disque. Puis tu sais, on joue sur la nostalgie, puis le fait de se rappeler les bons souvenirs de quand on était jeune. Bon, il y en a qui n'ont jamais connu les tourne-disques qui nous écoutent, là. Dont peut-être toi. Mais,
je sais à quoi ça ressemble.
Mais tu sais, les 45 tours, puis les 33 tours, puis il fallait que tu mettes la petite switch à la bonne place si tu voulais écouter ton disque, parce que sinon, ça allait soit trop lent, soit trop vite, dépendant du disque que tu avais. Donc, il revit ça, puis là, il se met tu vois, il va à travers des albums, puis il y a des vieux albums de Pink Floyd, des affaires comme ça qui sont dans la cabane, puis là, il se met des disques, il écoute sa musique, il se couche sur le gazon, puis il repose, puis il y a même une discussion avec une truite à un moment donné dans un lac. Tu sais, il regarde la truite, puis il commence à jaser avec, tu sais, parce que c'est le seul presque autre être vivant avec des oiseaux qui ont survécu dans cet environnement-là, parce qu'ailleurs que dans cette espèce de petit sanctuaire-là, dans les montagnes, c'est vraiment dévasté, là. On voit des bouts de New York qui restent, puis l'Empire State Building est presque sous terre. On voit un des ponts de New York, puis vraiment, le pont est rendu sous la terre, puis c'est vraiment le dessus de la structure qui dépasse du sable, tellement ça a tout été dévasté. Donc, on nous montre que vraiment, le nucléaire, ça a fait des gros dommages à la terre. Puis là, il y a un vaisseau qui s'écrase sur la planète, puis là, ils trouvent des survivants. Mais le drone arrive, puis le drone voit ça comme une menace, fait qu'il détruit toutes les autres espèces de... Il y a des espèces de cercueils, mais c'est de la cryogénie. Les personnes sont en sommeil profond là-dedans. Il est détruit toutes, sauf une. Et puis là, on voit que l'espèce de pod qui reste, l'espèce de boîte de cryogénie qui reste, c'est la fille qu'il voit dans ses rêves. Puis là, on s'en va... Dans cette histoire-là, on creuse pour savoir pourquoi qu'il la voit dans ses rêves quand il n'est pas supposé la connaître du tout. Puis là, on voit les flashbacks et tout ça. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que l'intérêt du film...
Non, c'est ça. C'est là que l'intrigue débouche. Là.
C'est ça. Puis c'est pas l'action, c'est pas les effets spéciaux. Tout est vraiment super bien fait. Mais si vous vous laissez porter par l'histoire, puis j'ai vu du monde, tu sais, puis un de mes chums a vu ce film-là, puis il dit, c'est correct, là, mais c'est pas si bon que ça. Mais si tu embarques dans l'histoire, puis tu te laisses porter par l'histoire qu'ils veulent te conter, c'est super intéressant, là.
C'est parce que si tu t'attends à voir un film d'action, c'est pas ça, tu vas être déçu, tu sais.
C'est ça.
C'est comme je te contais avant de faire le show, c'est que moi, je l'ai vu en sachant pas c'était quoi, tu sais. Donc, j'avais pas d'attente. Il y avait personne qui m'avait dit « Ah, ça doit être un film d'action. » Ou « Ah, il y a quelqu'un qui m'aurait dit « Ah, ben écoute, c'est pas tant ça. Ah, c'est plus ça. Ah. » Tu sais, j'avais aucune attente. Fait que je suis arrivé complètement l'esprit frais et j'ai été étonné de la bonne façon.
C'est ça. C'est exactement ça qu'il faut. C'est un film qu'il faut le prendre pour ce qui est, puis avoir zéro attente. Fait que s'il y a plein de monde qui vous ont dit « Loue pas ça, c'est plate » ou « Regarde pas ça, c'est plate » puis « Ouais, mais tu sais, je suis déçu, tu sais, il n'y a pas d'action tout le long » puis on nous vend ça comme un film d'action, ben non, c'est pas un film d'action. C'est un film de science-fiction. Donc, c'est un film où on nous raconte une histoire qui est, oui, possible dans certaines choses, mais on connaît pas le futur, on sait pas où ce qu'on s'en va. Si moi, quand j'étais jeune, vous m'aviez dit, dans 30 ans, tu vas pouvoir accès à un réseau mondial où tu vas pouvoir accès à n'importe quelle information que tu veux quand tu veux. Tu vas pouvoir regarder un film sur un ordinateur, puis il sera pas dessus, tu vas juste le transférer à mesure. Tu sais, je vous aurais dit, ben oui, tu vis dans le futur, c'est quoi Star Wars, ton affaire? Tu sais, fait que le futur, on sait jamais où ça s'en va, puis la technologie pourrait se rendre où ce film-là s'en va parce que, bon, on sait, est-ce qu'on sait vraiment, c'est comme j'ai toujours dit à plein de monde, est-ce qu'on sait vraiment si on est tout seul dans l'univers? Puis si on est tout seul dans l'univers, c'est une maudite perte d'espace, là, parce que c'est grand en tabarnouche. Puis si on est tout seul là-dedans, là, on pourrait se sentir seul, comme petite gang. On a beau être des milliards sur la Terre, mais s'il y a juste nous autres, le reste, là, il y a de la place en masse pour mettre quelque chose d'autre, ouais, me semble. Là,
c'est, en fait, les scientifiques le disent maintenant, là, c'est mathématiquement impossible qu'il n'y ait pas de la vie ailleurs. Quelle étape est-elle rendue? Ça, c'est pas connu, c'est pas su, on le sait pas, mais c'est mathématiquement impossible qu'il n'y ait pas de la vie ailleurs, là, que ces conditions-là, même si elles sont exceptionnelles, au prorata du nombre de planètes qui existent, de système solaire, c'est juste impossible qu'il n'y ait pas d'autres places où ça s'est réalisé aussi, là.
C'est ça, fait qu'il faut croire un peu que ça pourrait, tu sais, il y a des choses comme ça qui pourraient arriver, à savoir si une race d'extraterrestres qui réussirait à se rendre jusqu'à nous viendrait ici pour annihiler la planète. Ça, c'est une autre affaire. Normalement, si tu dis que quelqu'un avancé comme ça serait probablement ici pour plus faire contact que pour décider d'éliminer une planète puis dire « Ah, ben on va apprendre, ça ferait un beau chalet pour nous autres. » Mais, fait que, tu sais, l'histoire pourrait quand même être plausible en partie, mais c'est une histoire, faut s'asseoir, faut prendre ça, tu sais, léger, puis pas s'attendre à grand-chose, pas décider de ce que la fin devrait être, puis juste se laisser porter par l'histoire. Si vous vous laissez porter par l'histoire, vous allez voir que c'est vraiment super intéressant. Il y a une intrigue intéressante dans le film. Il y a pas vraiment une morale, là, mais c'est un film super intéressant, là. Fait que si vous ne l'avez pas vu, je vous dis, mettez vos attentes à zéro. Attendez-vous à rien parce que c'est dur de se faire une attente précise à ce film-là. Oui, même si Tom Cruise a un fusil sur la pochette, puis que si vous regardez la bande-annonce, on essaie de vous passer ça pour un film d'action pur, c'est pas ça. C'est un film de science-fiction avec des scènes d'action, des scènes où on essaie de résoudre une énigme, mais c'est un excellent film.
C'est un film à concept.
Oui, c'est ça. Mais c'est un film à voir au moins. Moi, je l'ai regardé en me disant, tu sais, je n'avais parlé avec ma femme m'a dit, ah, ça m'intéresse plus ou moins. C'est Tom Cruise, c'est pas vraiment l'acteur que j'aime le plus, puis ça n'a pas l'air si intéressant que ça. Puis avoir entendu du monde qui nous ont dit, ah, plate, tu sais. Puis je l'ai regardé, puis je me suis dit, ben, va falloir que je le regarde une autre fois, puis va falloir que je dise à ma femme de le regarder, parce que si on le prend pour l'histoire, c'est super intéressant. Fait que moi, personnellement, je lui donne un 8 sur 10. Les effets spéciaux sont super bons. L'histoire, est, si on se laisse embarquer, est intéressante. Bon, Tom Cruise, c'est Tom Cruise. Je veux dire, c'est dur de nécessairement voir si son personnage est différent des autres personnages qu'il joue. Je trouve pas que c'est un excellent acteur, mais ça fait le travail. T'sais. Il est plausible dans ce qu'il fait. Les autres acteurs alentour de lui sont aussi très bons.
Mais il joue souvent tout seul et malgré qu'il a, écoute, le poids du film sur ses épaules, il relève bien le boulot, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis même, tu sais, les acteurs de... Ben, Morgan Freeman n'a pas un rôle énorme dans le film. Là. Il est présent, mais attendez-vous pas à le voir partager l'écran longtemps avec Tom Cruise. C'est vraiment pas ça. Il est là par bout.
2-3 jours de tournage.
Moi, ouais, genre, là, peut-être même une journée, deux jours. Là. Puis les autres acteurs de soutien. Les filles qu'il y a avec lui, les femmes qu'il y a avec lui, Vika, qui est jouée par Andrea Risenborough, là, qui n'est pas nécessairement super connue, mais elle fait un très bon travail d'être froide et méfiante.
Ah, elle est tellement bonne, là, elle l'a ouais, vraiment.
Puis tu sais, t'es pas sûr de. Es-tu méchante, dans le fond, ou est-ce juste naïve, ou es-tu fine, es-tu en amour avec lui, elle l'utilise-tu? Tu sais, vous allez le découvrir pendant le film. C'est quoi son rôle? Je ne vais pas donner de spoiler, mais vous allez voir, vous savez pas trop par où la prendre. Là, parce que par bout, on dirait qu'elle est vraiment en amour avec lui, puis par bout, on a l'impression que c'est plus son travail de contrôleur de ses activités dans la journée qui mène. Elle est vraiment difficile à prendre, mais elle joue tellement bien son rôle. C'est vraiment, vraiment très bien. Puis elle jolie à part de ça. Là, fait
Olga Korilenko, par exemple, c'est totalement l'inverse. Là. Moi, j'ai tellement pas embarqué. Là. J'ai l'impression qu'elle a que c'est une potiche.
Non, ça a l'air robotisé, son affaire.
C'est une plante verte. Elle est comme sur le pilote automatique, puis elle attend que ça se passe alentour de elle. Là.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a d'autres acteurs dont, si vous regardez la page Wikipédia du film, ils sont même pas nommés. J'ai arrêté mon nez pendant le film parce que j'ai fallu que je prenne un break de 30 secondes. Puis je me suis dit, avant de recommencer, je vais aller voir la page Wikipédia pour voir les acteurs, puis qui a joué là-dedans, puis tu vois si je reconnais quelqu'un. Puis dans vraiment les personnages principaux, il y a comme 6 personnes, tu sais. Mais à un moment donné, on rencontre plein d'autres personnes dans le film, mais il n'y a aucun crédit sur la page. On pense qu'on reconnaît certains acteurs, mais on les reconnaît pas nécessairement. T'sais. Ah, c'est peut-être pas lui finalement, parce que mettons son nom aurait été sa page Wikipédia.
Sûrement.
Mais fait qu'on ça a l'air d'un film vraiment à petit budget, mais là, on s'aperçoit qu'il y a plus d'acteurs que ça. Les effets spéciaux sont vraiment très bien. On a un peu l'impression d'être dans un Fallout, genre, où l'humanité est presque décimée, puis c'est vraiment désertique partout. Puis, tu sais jamais quand tu vas pouvoir te faire trucider par une bébite qui va arriver de n'importe où. Sauf qu'on a un peu l'impression que c'est dans ça, parce qu'il est vraiment tout seul quand il va sur la planète, puis il faut toujours qu'il vérifie ses arrières, voir s'il n'y aurait pas quelque chose, un extraterrestre qui l'attaquerait. Ça fait qu'il y a un peu de suspense, mais. Il ne faut pas vraiment capoter là-dessus. Là. On vous fera pas sauter. Si vous pensez, à un moment donné, quand vous allez regarder, vous allez dire « Ah, ouais, ils vont me faire un saut. Check, ça s'en vient, ils vont me faire un saut. » Non. C'est pas un film à vous faire sursauter. Ça va peut-être arriver une fois ou deux, là, mais c'est pas le but du film. C'est vraiment l'histoire qu'on vous compte. Moi, je pense qu'ils ont fait vraiment un bon travail. J'ai été agréablement surpris. J'écoutais ça dans le but d'être déçu. Je me suis dit, hey, ça va me faire un.
Ça va me faire un truc à bâcher, là.
Non, un film à planter, tu sais. Puis de toute façon, Tom ne m'appellera pas pour me dire, hey, t'as planté mon film, tu sais.
Contrairement à Georges Saint-Pierre.
Qui pourrait te péter les jambes encore si jamais il écoute le podcast. T'sais. Mais, tu sais, ça se fait bien. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous le conseille. Puis c'est plate. Je regarde Rotten Tomatoes, tu sais, qui donne ou Metacritic là, qui ramasse le score, puis ça a eu un 54%. Je pense que le monde qui a été voir ce film-là s'attendait vraiment trop à d'autres choses. Puis c'est peut-être la faute de celui qui a monté la bande-annonce. Si tu sais, je pourrais là, monter un film vraiment plate là, avec une scène d'action, puis prendre juste des petites brides de la scène d'action, puis te mettre ça dans un preview. Puis tu pourrais penser que c'est un film d'action, puis ça pourrait être un film où on est assis à une table, moi, plutôt qu'on jase pendant 2 heures.
Ouais, c'est assez demandé si le gars qui a fait la bande-annonce a vu le film avant.
C'est ça. Ou c'est juste. Des fois, c'est des commandes du studio. Hein. Faut pas penser que les studios, c'est patte blanche. Là. C'est vraiment souvent. Bon, regarde, il faut amener du monde au cinéma. Là. Tom Cruise nous coûte cher à signer pour faire ce film-là. Là. Mais probablement que si on regarde Tom Cruise, est probablement dans la production du film parce que maintenant, il est assez gros et connu pour être capable de faire ses propres films puis d'être. d'être producteur, délégué ou quelque chose de même. Mais si je
là,
regarde,
il sent pas l'être, là.
Non, si je regarde en page Wikipédia, il a pas l'air d'être pour cela, mais Jack Reacher, il était un des producteurs.
Ouais.
Même, je pense que c'est lui qui était directeur sur le film. Puis ça a fait quand même une bonne job. Mais c'est ça, fait que tu te dis... Tu sais, des fois, le gars qui a monté la bande-annonce est peut-être fait dire par le studio, regarde, arrange-toi pour que le monde vienne de voir le film. Fait, mets-en de l'action, tu sais, monte des popounes, monte qu'il y a du tirage de fusil là-dedans, puis du vaisseau, puis tout, puis le monde va aller le voir. Puis, yeah, même s'ils sortent déçus, là, c'est pas grave parce que on va l'avoir fait notre argent de toute façon. Puis c'est un film de science-fiction. Puis le monde aime ça, les films de science-fiction. Fait qu'ils vont aller le voir, les yeux fermés, la première fin de semaine. On va faire notre argent. Puis ça va être tout, tu sais. Mais tu sais, le film avait un budget de 120 millions. Puis ça a fait 286 millions.
Bon.
Fait que, tu sais, ils ont réussi leur pari. Mais si les gens qui sont sortis du film avec la déception d'avoir pensé que c'était un film d'action pur et dur, ont donné les cotes sur Metacritic, puis ça a donné 50%, 54%. Mais le monde qui vont voir ça avec zéro attente, si le monde aurait été voir ça avec zéro attente, puis une bande-annonce qui te laissait penser que c'est un film de science-fiction, mais plus songé, puis pas juste on tire partout, puis on pose des questions après, le film aurait peut-être eu 70%, 65%. Sur Metacritic à la place, puis ça aurait paru un peu mieux. Mais laissez-vous pas jouer par ça. Regardez pas la bande-annonce si vous ne l'avez pas vu. Allez juste louer le film, regardez-le, puis vous allez voir que c'est un film qui vaut pleinement de 2 heures que ça dure, 124 minutes. Bon, 2 heures et 4 minutes que ça dure. Vous allez avoir du bon temps, mais comme je vous dis, effacez vos attentes, regardez-le, puis amusez-vous, c'est tout.
C'est drôle parce que on a des sujets cette semaine qui sont diamétralement opposés. Ok, toi c'était cérébral, c'était un film de genre, c'était un film de concept. Alors que moi c'est à l'inverse, c'est mets ton cerveau à off, puis le plus de niaiseries possible on peut faire, le plus qu'on va en faire. Tu sais, je vous parle cette semaine du jeu Saints Row 4. Pour ceux qui ont déjà joué à la franchise, vous savez que c'est un peu des compétiteurs au Grand Theft Auto de ce monde. On a un univers ouvert, où est-ce que, à la manière d'un bac à sable, où est-ce qu'on peut faire à peu près n'importe quoi. Dans les deux premiers volets, on s'attaquait vraiment là, à GTA dans son domaine. Dans le sérieux, dans le jeu d'action rythmé, avec des guerres de gang, des affaires comme ça. À partir du troisième, on s'est dit, bon, OK... On n'est pas capable de battre la gang de Rockstar avec un produit semblable. Ben, allons chercher une petite diversité en faisant des niaiseries. Ça avait levé, ça avait fonctionné. C'est un excellent titre, le troisième. Et le quatrième, on s'est dit, bon ben, OK, faire des niaiseries, ça marche. On va mettre ça dans le tapis. Fois 1000.
On va tourner le volume à 20.
Ouais, ouais. Écoute, les niaiseries dans le tapis. Et ça commence avec la prémisse de base. On se retrouve à camper le rôle du président des États-Unis qui s'est fait élire, je ne sais pas trop comment, là, c'est certainement pas pour sa plateforme électorale basée sur une économie serrée pour générer des emplois. Non, c'est vraiment pas là-dessus. C'est du douchebaguisme à profusion, des muscles, des tatous, des belles coupes de cheveux, des grosses qualités, deux grosses qualités pour les filles. Puis c'est là-dessus qu'on base notre façon de penser, de réfléchir pour être les meilleurs au monde et devenir président.
Ouais, mais quand ça marche pas, puis que... T'sais, tout ce que le président pense, c'est de gérer les guerres qui font ailleurs dans le monde, puis qui les touchent de plus ou moins près des fois, puis que ça dépense des billiards de dollars là-dedans. Tu te dis, ben, t'sais, peut-être un petit changement de cap.
Ben ouais!
Ça ferait peut-être pas de tort, tu sais.
En tout cas, je sais pas si à mettre ce gars-là au pouvoir dans la vraie vie, si les États-Unis survivraient 4 ans avec lui à la tête économiquement. Mais en tout cas, dans le jeu, ça se tient pendant les à peu près 30 secondes qu'il est réellement président. Parce que rapidement, dans la prémisse de base, dans l'introduction, on va voir que le président des États-Unis doit faire face à une attaque d'extraterrestres, des Zins, les Zins, donc les Zins, qui viennent attaquer la Terre. qui extermine tout le monde et qui, le président des États-Unis et sa gang qui ont essayé de combattre l'invasion, ont réussi à faire quelques victimes dans les rangs ennemis, ont été capturés et le maître, le grand Zin, décide de les rentrer dans une genre de simulation, un peu à la Tron. Tu sais, quand tu sais, c'est dans un univers dans une console de jeux vidéo, dans un ordinateur, un univers informatique, c'est un peu le même principe. On le rentre dans lui et sa gang dans une simulation, puis on le regarde essayer de se démerder pendant des siècles et des siècles parce qu'il réussira jamais à sortir de là. Puis c'est juste drôle de le voir se faire tabasser par tout le monde dans le cadre de cette. Tu sais, c'est comme. Ça devient un rat de laboratoire, genre, pour le grand Zin.
OK.
Donc, on a une prémisse de base qui est assez simple. C'est un univers qui n'existe pas. C'est tout du virtuel. Et dans du virtuel, tu peux faire n'importe quoi, tu sais. Ça va fonctionner pareil. Jusqu'à ce que... c'est ça. Donc, jusqu'à ce que le personnage principal se rencontre de ça et qu'il réussisse à se libérer de sa prison et qu'il commence à pouvoir agir librement dans cet univers-là virtuel et à pouvoir acquérir des pouvoirs spéciaux. C'est là que le fun embarque. Vraiment, le côté satirique du jeu, le côté humoristique, c'est un excellent point. C'est le fun, c'est agréable d'être dans cet univers-là. On a du fun. Mais ce qui rend ça encore plus intéressant, c'est que, oui, tu peux prendre des bazookas, oui, tu peux prendre un katana, oui, tu peux prendre un bat de baseball ou des fusils, mais tu sais, c'est tellement standard, tu sais. Allons-y comme over the top, tu sais. Allons-y, puissance 1000. Ayons des capacités à la manière d'un super-héros, de la télékinésie, pouvoir envoyer des boules de feu, pouvoir voler ou planer, faire des sauts de géants, tu sais, des choses de ce genre-là, tu sais. Devenons une machine de guerre et on réussit ça vraiment très très bien dans Saints Row 4. C'est complètement déjanté, assez que éventuellement, là, tu n'utilises plus d'armes.
Tu fais juste utiliser tes pouvoirs.
Ben oui, c'est tellement plus fort. À quoi bon prendre un char pour se rendre du point A au point B quand tu peux voler, tu sais?
La question que j'ai pas joué au jeu. J'ai pas. J'ai Saints Row 3 que j'ai ramassé dans un des Humble Bundle à quelque part. Là. Mais est-ce que t'as des murs invisibles? Est-ce qu'on t'empêche d'aller où tu veux ou c'est vraiment un monde complètement ouvert puis peu importe ce que tu vois, tu peux t'y rendre?
Dès le départ, tu peux t'y rendre partout où est-ce que c'est visible. Okay. Le fait est que c'est de la ville où est-ce que tu habites là, qui est accessible, mais c'est tout. C'est comme si tu avais une île, un peu à la manière d'un GTA ou d'un jeu comme ça. C'est qu'on va délimiter l'extérieur de la carte par du vide ou par de l'océan, là, peu importe. Et à un moment donné, tu vas frapper à la limite de la map, tu sais. Mais t'as tellement grand de terrain de jeu que c'est pas grave. Parce que éventuellement, c'est sûr, tu sais, faut qu'il y en ait un mur invisible, faut que t'aies une limite. Mais dès le départ, dès que tu commences le jeu, tu peux aller partout.
OK. Donc, t'es pas bloqué ça, en partant, toutes les zones sont ouvertes.
Non, y a pas de zone. Ah, y a une tempête, fait que le pont est fermé. Comme j'ai déjà vu dans un GTA à une certaine époque, tu sais. Ah, OK, écoute, rendu à telle place dans la mission, là, on débloque un bout de ville. Non, tu sais, tout est accessible tout de suite.
OK, mais c'est pas pire.
Ouais. Dans ce jeu-là, la musique est écœurante, vraiment très, très bonne. Entre autres, dans la mission de départ, on envoie un missile nucléaire, puis le président dit « Non, tu sais, écoute, on... envoyer ça, ça va rien changer, on va juste s'auto-détruire nous autres-mêmes. Vite, essayons de le détourner, tu sais, pour pas qu'il explose. » Et là, t'es en train de grimper après un missile nucléaire, et la tune qui joue, c'est du Aerosmith, c'est « I don't wanna miss a thing ». Un peu comme dans Armageddon, tu sais. C'est juste ça.
Un petit
ça,
clin d'œil,
là,
peut-être.
Un petit clin d'œil, mais magique, là. Juste ça, ça vous démontre comment on a réussi à s'acheter les droits de chanson pour que ça cadre avec cet univers-là complètement déjanté pour faire des trucs marrants, tu sais. Les utiliser, abonner ça pour que ça augmente le jeu, tu sais. Je compare avec un GTA V que je suis en train de traverser actuellement. Oui, il y a plein de musique. Oui, c'est le fun, tu sais. Il y a la radio. Oui, c'est. Tu sais, il y a des bonnes tunes. Il y a des styles que tu n'aimeras pas, tu sais. Peut-être le country, c'est pas ton genre. Peut-être que ton ami à côté, lui, c'est son style, puis c'est ça qu'il va écouter. Mais il n'y a rien qui fait partie prenante des missions, tu sais. Il n'y a rien que, hop, il y a une toune à telle place, tu sais, que c'est scénarisé dans le jeu, qui va faire que, tu sais, ça va augmenter le plaisir, tu sais. Il y a zéro occasion où est-ce que c'est le cas. Et là, ça, on a réussi à faire ça dans Saints Row 4. C'est un petit plus. Moi, je suis genre à normalement jouer à mes jeux vidéo avec le son fermé. J'écoute la radio, j'écoute les games d'hockey, tu sais, je fais 100 000 affaires en même temps, côté sonore, puis je ferme le son du jeu. Puis là, je ne l'ai pas fait avec lui parce que justement, il y avait un plus-value. Il y avait une valeur ajoutée au fait de garder le son de la télé ouverte ou encore de l'ordinateur pour jouer à ce jeu-là.
Fait que tu avais le goût d'avoir l'ambiance sonore aussi, ouais. Pas juste le visuel. Là.
Même si le bruitage est assez répétitif, tu vois, ton personnage finit toujours par redire assez régulièrement les mêmes affaires. Exemple, il utilise ses super pouvoirs, puis il dit Kenzie, ça c'est comme l'informaticienne qui l'a libéré, puis qui est en train de l'assister à bord de leur vaisseau pour essayer de s'échapper. Puis il dit Kenzie, j'espère que t'as enregistré ça, c'est comme trop hot. Là, ça va revenir souvent, ce genre de petits commentaires-là. Mais malgré tout, j'ai eu le goût d'avoir le son tout le long parce que les musiques prenaient le dessus à certains moments dans l'émission. L'association musique-événement était juste comme trop bon. Là.
OK. Ouais, ça donne le goût de jouer dans ce sens-là. C'est le fun quand tu embarques aussi dans ce qui est sonore. C'est pas toujours la même chose qui arrive. T'as-tu un peu comme dans... Puis encore là, je suis pas un grand joueur de Grand Theft Auto, mais est-ce que t'as des commentaires à la radio comme quoi il y a un événement qui est arrivé si tu fais quelque chose de gros ou c'est pas du tout... Ça arrive pas, ça?
Non, il y en a vraiment pas. Il y a...
Dans GTA, il y a ça, si je me rappelle. Ouais. Si tu voles une banque, ben, tu pourras avoir un commentaire à radio qui dit que cette banque-là
un
est
genre
volée,
de bulletin de nouvelles. Ouais. Oh, non, tu n'as pas ça dans Saints Row 4.
Okay.
Comme je te dis, oui, il y a plusieurs stations de radio. C'est cool, la musique est bonne. Musique pour musique, je te dirais que c'est égal. C'est l'utilisation dans le cadre d'émissions qui donne un plus à Saints Row 4. Mais pour ce qui est des commentaires radiophoniques par rapport à ce qui se passe comme événement, le fait que l'univers sache que toi, tu existes, comme c'est le cas dans GTA V, que tu sens une répercussion dans l'univers, du moins pour une fraction de seconde, parce que oui, il y a des commentaires à la radio, mais une fois que le commentaire est passé, il reviendra pas, tu sais, il n'y aura pas d'autres commentaires par rapport à ça, par rapport à ton action. Fait, tu sais, oui, tu as une interaction, oui, tu as le fait d'avoir une réaction à ce que tu as fait, tu as une interaction, tu as un impact, mais il n'est pas sur le long terme tant que ça, tu sais, par rapport à ça. Tu l'as pas ça dans Saints Row 4, mais c'est pas nécessairement un point négatif pour autant. Là. C'est pas quelque chose qui, pour moi, m'a enlevé un plaisir par rapport à GTA V. Là.
OK, OK. Bon, c'est bon.
Autre truc, je parlais des super pouvoirs. Oui, c'est le fun. On se sent puissant. Moi, j'ai fait toutes les missions secondaires en premier parce que tu ramasses des boules d'énergie pour pouvoir augmenter tes capacités. Tu débloques de l'argent. Plus tu fais des missions secondaires, plus tu peux augmenter tes pouvoirs. Plus tu peux débloquer de sortes de pouvoirs. Tu deviens vraiment une machine de guerre. Là. Ça devient facile, le jeu, mais là, extrêmement facile. Tellement que je te dirais que c'est peut-être même un point négatif du jeu. Au départ, t'es comme pas armé, t'as très peu de choses. En plus, t'apprends à contrôler le personnage que tu incarnes. Fait qu'au début, j'ai trouvé que le jeu était plus difficile que la fin. Parce qu'à la fin, t'es comme trop badass. T'es juste trop fort par rapport à tes ennemis qui, eux, ont pas de pouvoir.
Trop fort pour la ligue.
Tu sais, au début, c'est jouissif, là. Tu fais comme, c'est donc ben hot, tu sais. Puis pendant, moi, ça m'a pris, tu sais, peut-être entre 20 et 25 heures passées à travers le jeu. Les 20 premières heures, là, j'avais du fun, là. J'étais comme, yeah, ça va bien, tu sais. C'est quand tu enclenches la dernière section du jeu que là, on dirait que les créateurs, ils ont fait comme, OK, là, on est trop fort. On a demandé au personnage de s'améliorer. OK, ça, c'est cool. Mais là, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir mettre un niveau de difficulté? Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est juste comme trop, là. Est-ce qu'on peut faire un ennemi comme super badass? Ouais, peut-être, OK. Ah, OK, ouais, j'ai peut-être une idée. Tu sais, genre d'un meeting, là, genre un brainstorm. Là, j'ai peut-être une idée. Faisons perdre les pouvoirs à notre protagoniste.
Le gars dit, « Hey, moi, j'ai joué à God of War en fin de semaine. »
Mais au lieu que ça soit au début, mais là, à la fin, tu sais.
Ouais, c'est ça, on préfère perdre les pouvoirs aux gars, là. Le monde aime ça, ça fait trois fois qu'ils font ça dans God of War. Fait que, tu sais, peut-être que le monde va triper aussi.
Ah, peut-être. Je sais. Écoute, dans les dernières missions, ce qu'on va souvent nous faire faire, c'est de nous enlever nos pouvoirs, nous dire « Ah, là, vous n'êtes plus dans la simulation, vous êtes dans tel type de monde, vous êtes dans la vraie vie, blablabla. Bla, » bla. Peu importe là, la façon de faire, là, on va t'enlever tes pouvoirs pour rajouter un niveau de difficulté parce que sinon, tu serais juste trop fort. La finale est un peu en deux teintes à cause de ça parce que quand tu ne seras pas dans des missions, tu vas revoir tes pouvoirs. Puis quand tu rentres dans des missions, whoop, tu vas y perdre pour X, Y raison pour t'amener une jouabilité qui est un peu plus dure, t'amener à avoir du challenge de différentes façons. Là.
OK.
Fait que ça, c'est comme en deux teintes. Puis j'ai trouvé ça un peu choquant. Tu sais, soit tu fais que mes pouvoirs se débloquent peut-être moins rapidement, que je deviens moins badass vite, mais tu me les enlèves pas à la fin, ou t'sais, je sais pas, essaye de calibrer ça différemment, parce que là, j'ai trouvé que c'était peut-être un point plus faible là, de m'avoir donné ce bonheur-là pour me l'enlever à la fin, tu sais.
Ouais, peut-être pas la manière d'y aller. Ce serait peut-être bon d'augmenter la difficulté des personnages graduellement ou donner moins de pouvoir. Mais tu sais, quand tu vas over the top, comme tu dis, tu veux que la personne se sente comme un dieu, peut-être. Puis d'enlever ces pouvoirs-là à la fin, c'est comme garde ce qu'on te donne, on est capable de te l'enlever aussi.
C'est une genre de torture, là.
Ouais, tu sais, fait que c'est peut-être la manière qu'ils ont décidé d'y aller. C'est peut-être chien, mais c'est légal. T'sais.
Oui,
ils
c'est
peuvent
légal.
Faire ce qu'ils veulent.
Oui, c'est légal. C'est complètement légal, mais avoue qu'il y a un petit côté tristounet à ça. T'sais.
Ouais, c'est de la torture pure et dure.
Ouais.
C'est comme ce que tu as fait à Daniel pour qu'il revienne.
Oui, exact. Pareil, j'ai donné des pouvoirs, j'y ai donné une tribune, j'y ai donné le droit de s'exprimer. Écoute, il avait le droit de parler de ce qu'il voulait, puis là, j'y ai enlevé, puis là, ben, il a le goût de revenir. Tu vois, hein? C'est pareil.
Ouais, c'est le même, ça marche.
C'est le même, ça marche. Prochain point qu'on pourrait peut-être mentionner, côté graphisme, j'ai trouvé que c'était beau, mais pas tant que ça. C'était hyper répétitif dans les textures qui sont utilisées, le type de bâtiment. Beaucoup de répétitions aussi dans le type de mission qu'on a à faire. Parce qu'on va arriver et on va dire, OK, va conquérir telle place. OK, va mettre un virus à telle place. On va faire telle affaire. Et t'as à peu près 6 ou 7 types de missions. Puis en grande majorité, tes missions secondaires sont basées là-dessus. Et t'en as peut-être une soixantaine à réaliser. Fait que tu fais rapidement le tour de ce que t'as comme variété de jouabilité. Et en plus, t'y reviens souvent, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'on finit par se dire « OK, bon, ben je me déplace du point A au point B pour aller faire tous les mêmes types de missions, back-à-back, comme ça, je vais les avoir clenchées. » Tu sais. C'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'on m'en donne plus de variété. Puis même dans la trame scénaristique principale, on va te refaire faire ce genre de mission-là à certaines occasions. Oui, il va en avoir plus variées, qui vont être différentes, mais souvent, on va te reprendre les mêmes processus pour t'expliquer peut-être, mettre l'emphase sur un nouveau pouvoir, sur telle affaire, sur ça, tu sais. On va souvent reprendre les mêmes choses à te faire faire. Ça, j'ai trouvé ça dommage parce que après 25 heures, tu commences à connaître le tabac pas mal. Là.
Commence à connaître la routine.
Assez pas pire, oui.
Bon, mais c'est un jeu pour te défouler. C'est pas un jeu cérébral. Mais
non, c'est ça.
T'es trop cérébral en partant, tu le sais.
Ouais, mais tu sais, après 25 heures, mettons que, tu sais, lâcher son fou, triper, être trop puissant, je l'avais fait, là, tu sais.
Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut venir redondant. Là.
Mm-hmm. Autre truc, on a des pouvoirs. C'est cool. Ils sont le fun. Ils sont agréables de par qu'est-ce qu'ils nous donnent comme résultat. Le problème, c'est que c'est un peu... Il y en a trop. Il y a trop de variétés. À un moment donné, tu te dis, écoute, je vais manquer de boutons sur la manette. Je vais manquer de combinaisons pour être capable de toutes les activer. Et on finit par les ressentir dans certains combats, surtout à la fin du jeu. On va arriver, puis, exemple, tu vas avoir, OK, boule de feu, c'est tu sais, sur la manette de l'Xbox 360, parce que moi, j'y ai joué sur PC, mais avec une manette de 360, les analogues.
Ouais.
Les joysticks. Mm-hmm. Et t'as aussi en dessous de celui de gauche, c'est comme une croix directionnelle. Et tu décides quel est ton pouvoir selon la flèche que tu vas peser. Mais là, tu vas te ramasser à avoir deux pouvoirs par flèche Donc, tu vas te ramasser avec un total de 6 pouvoirs parce que celle du bas est un pouvoir seulement. Donc, 6, ça donne 7 pouvoirs. Et là, ben, t'es en plein combat, t'as un ennemi qu'il faut que tu le détruises avec tel type de pouvoir, un autre avec tel autre type. Et là, tu vas te passer ton temps à devoir lâcher la direction de ton personnage pour aller changer ton pouvoir, puis à cliquer soit une fois, soit deux fois. Puis dans le rythme de l'action, des fois, tu vas finir par te tromper, tu sais, à passer par-dessus, puis finalement, pas utiliser les bons pouvoirs. Et tu as un certain temps de rechargement avant de pouvoir réutiliser ton pouvoir. Donc, ça devient une manipulation qui est assez compliquée. Au début, j'ai vraiment eu une adaptation à prendre, à faire pour devenir capable de contrôler toutes les options. On te le fait faire graduellement, là, quand même. Tu as des tutoriels à chaque fois que tu as un nouveau pouvoir. Mais tu fais le tutoriel, on te fait faire comme 3 mini-épreuves pour t'apprendre à utiliser le pouvoir. Mais après ça, tu rentres dans le jeu avec tout le reste plus ça. À la fin, tu commences à en avoir plusieurs, là, des variétés. Fait que ça peut devenir assez mêlant là, à certaines occasions.
À tout contrôler.
Oui, c'est ça.
Mais tu dis qu'il faut que tu utilises un certain pouvoir pour tuer un certain ennemi. T'as-tu des ennemis qui sont immunisés à la boule de feu, genre, il faut absolument que tu prennes un autre pouvoir ou...
Ben, tu vois, t'as pas d'ennemis qui sont vraiment, immunisés. Mais tu vas avoir des ennemis que ça va aller plus facilement avec certains.
Qui sont plus résistants à voilà, quelque chose. Mais okay. Ça va lui faire du dommage pareil, mais moins que si tu utilises un pouvoir.
Puis l'une des affaires, à un moment donné, tu débloques une habileté en pesant sur le stick droit, donc le deuxième qui dirige la caméra, mais en cliquant avec, parce que tu peux faire ça, va te permettre de faire une attaque au corps à corps qui va tuer d'un seul coup un ennemi. Puis ça, ben, tu vas avoir des personnages adverses que tu pourras pas le faire du tout. T'sais. Ça fonctionnera pas. Moi, c'est devenu une de mes techniques favorites parce que ça clenchait rapidement. Là. Avant que j'aie des pouvoirs qui avaient un étendu plus grand et qui avaient un impact sur plus qu'un ennemi, c'était une affaire que j'utilisais beaucoup pour m'en sortir parce qu'au début, le jeu est plus dur au début qu'à la fin, là, vraiment. Là.
OK. Ah, ben, c'est sûr, t'as moins de pouvoir.
Ouais. Mais... t'es moins résistant, t'as moins. Tu sais, il y a vraiment le côté badass qui vient au fur et à mesure dans le cadre du jeu.
Ouais.
C'est un jeu qui est extrêmement le fun. Vous allez avoir du plaisir avec ça, c'est sûr. Comme je vous dis, un peu redondant, le 20 à 25 heures que ça prend pour passer à travers, il y a beaucoup de missions secondaires que vous allez vouloir faire pour avoir des meilleurs pouvoirs. Puis qu'à la fin, ça vous donnera pas tant de bénéfices que ça. Oui, vous allez en avoir dans beaucoup, beaucoup, la majorité des missions, mais à la fin, on vous en enlève un petit peu pour redonner de la difficulté au jeu. C'est un jeu qui est extrêmement drôle. C'est de la folie pure et dure. Les développeurs de Volition qui ont fait le jeu ont dû avoir un fun noir à créer ça. Moi, j'ai passé le jeu avec un costume de mascotte avec une tête de chat. Là. Genre de complet. Tu sais, un peu là, comme ceux là, qui font des passes de moto. Là, passer au-dessus des autobus, des affaires de même, passer à travers des cerceaux de feu. Puis,
Ouais,
avec un genre de soude de même, avec une tête de chat, là, de mascotte sur la tête. Moi, je trouvais ça drôle d'être habillé de même et de défoncer tout le monde. Tu peux vraiment t'habiller comme de 100 millions de façons cocasses, plus drôles les unes que les autres. On a vraiment, c'est de la folie. C'est juste drôle, c'est juste plaisant. Et si tu le prends pour ça, si tu le prends pour t'éloigner de tes soucis, si tu le prends pour t'sais, pas penser à tes problèmes, pour avoir une bonne dose de fun une fois de temps en temps, vas-y. T'sais. Si tu penses le traverser un peu comme moi je l'ai fait, à jouer là, intensément pendant une semaine et demie, pour le passer de A à Z, c'est peut-être pas la meilleure façon de le prendre, parce que ces défauts de récurrence vont vous apparaître encore plus que ce qu'ils pourraient être aperçus quand on y joue moins souvent. Faut le prendre à petite dose, faut le prendre pour relaxer, pour avoir du fun, et vous allez pouvoir, de cette façon-là, mieux savourer le jeu. Sinon, ben vous allez peut-être voir ses lacunes plus franchement, comme moi je les ai vues. Mais j'ai eu du fun, là. C'est un excellent jeu. J'irai avec un 8 sur 10 pour donner une note.
Bon, c'est la soirée des 8.
Ouais, mais toi, t'as donné 8.5, moi je donne 8.
Non, j'ai donné 8.
8?
J'ai donné 8.
Ah, bon.
Tu suis pas.
Eh non. Ça, là, c'est ma mémoire à court terme de poisson rouge. J'ai une excellente mémoire à long terme, mais à court terme, je l'ai vraiment pas.
Hey, j'ai des poissons rouges puis on a une mémoire, meilleure mémoire que ça. Fait que insulte pas mes poissons rouges.
Ça se peut. Moi, je suis genre à mettre des alarmes pour tout, pour rien oublier. Là. je mets de quoi dans le four, je mets une alarme, j'ai un rendez-vous, je mets une alarme, je mets des alarmes pour tout. Là. C'est l'enfer parce que j'ai pas de mémoire à court terme.
Mets une alarme, va faire un petit pipi, Jean-Benoît.
Ouais, non, c'est ça. Faut pas que j'oublie de m'hydrater.
Ça fait 2 heures que t'as pas été à la salle de bain. Va faire un tour à la salle de bain, Jean-Benoît. Ça pourrait être dangereux.
Ouais, ça pourrait être dangereux.
Fait que si tu le compares parce que t'es en train de jouer à le fameux GTA, ça se compare-tu encore ou c'est vraiment tellement différent dans le style de jeu puis dans les attentes que tu peux même pas comparer? Mais si t'avais à acheter juste un des deux, serais-tu plus GTA ou
Saints Row? Ben, j'irais avec GTA. Okay. Pour l'immensité du jeu. Je vais en faire la critique dans un épisode prochain là, de la réalité augmentée. Je ne veux pas trop en dire, mais vous n'avez entendu parler. Là, ma critique, ce ne sera pas la première fois que vous allez avoir entendu parler de ce jeu-là. Là. Si vous nous écoutez, c'est parce que vous avez entendu parler de GTA. Là, on va se le dire. Là.
Mais non, c'est tellement obscur, c'est un petit titre.
Ben oui, c'est ça.
C'est de même de nulle part.
Tu sais, pour la variété, pour l'immensité du monde, le monde est beaucoup plus petit là, dans Saints Row 4. Puis en plus, on le traverse beaucoup plus rapidement en pouvant voler. Là. Pour la diversité, pour les personnages, le fait que quand tu es dans Saints Row 4, t'en joues rien qu'un versus 3 dans GTA, ça a complètement changé la façon d'aborder ce genre de jeu-là, bac à sable. Pour le côté... Ah, je trouve ça dur de dire ça, mais plus réaliste de GTA. Si vous êtes plus terre-à-terre, allez-y avec ça. Quoique, on s'entend que c'est tellement pareil. Relatif. Là. Mais tu sais, c'est tellement plus GTA que Saints Row 4. Mais faut pas prendre Saints Row 4 comme étant un adversaire à GTA. On utilise le même procédé de t'offrir un univers bac à sable et de te laisser faire ce que tu veux dedans. Ça, oui. Mais, à part ça, il n'y a aucune ressemblance.
Okay.
Quand, après ça, là, dépasser ce stade-là, il n'y a plus rien qui est pareil. Il y a à peu près l'utilisation des armes, mais rapidement, on les laisse tomber. Donc, même ça, c'est tellement plus un facteur de ressemblance, là, de comparaison. C'est différent. Faut pas les acheter pour le même type de plaisir. GTA va être plus cérébral. Même si, encore une fois, je trouve ça dur, je trouve ça louche même de dire ça, là, de traiter GTA de cérébral. Là, mais c'est tellement déjanté, c'est tellement juste de la folie. C'est tellement une excuse pour faire des jokes. Saints Row 4, c'est ça. C'est une excuse de développeur. D'après moi, là, Saints Row 4, là, la gang de Volition, là, ils ne savaient même pas que c'était en train de se produire. C'est deux, trois gars qui sont mis dans un coin. Ils testaient un party. Il y avait bu une coupe de bière. Peut-être des substances illicites. En fait, probablement des substances illicites dans le mélange. Et ils sont partis sur une bulle de développement. Ils sont arrivés au bureau et ils ont fait comme « Hey, on pourrait faire ça. » Puis là, ils faisaient des « Puis les autres ont fait comme « Oh boy. »
Okay. Ils revenaient tous de dîner un vendredi après-midi, puis ils ont tous dit « OK ».
OK.
mais probablement, puis là, je lance ça dans les heures comme ça, mais probablement que Saints Row 4 avait commencé à être développé par la gang de THQ, non?
Hey boy!
Parce que la franchise de Saints Row 3 appartenait à THQ, puis quand ça faillité.
Faillité. On peut dire.
Quand ils ont fait faillite puis qu'ils ont vendu les actifs de THQ, d'après moi, c'est eux autres qui ont ramassé la licence. Ça devait avoir déjà commencé parce que ça fait pas si longtemps que ça que THQ a fermé les portes puis Saints Row les appartenait. Fait que je peux pas croire que ce studio-là travaille sur un Saints Row depuis 3 ans, 3-4 ans, 2-3-4 ans.
Volition, c'est une parcelle, c'est une sous-division de Deep Silver. Donc, probablement que Deep Silver a fait des achats là, pour avoir la franchise des Saints Row.
C'est probablement le développement a probablement commencé chez THQ, puis eux qui ont ramassé puis ils ont fini ça.
Probablement.
D'après moi, là, mais regarde, je sais pas, je dis ça comme ça, là, mais il me semble que ça fait pas si longtemps que ça que THQ a fermé les portes pour que le développement ait été fait totalement dans le nouveau studio. Là. Mais je pourrais me tromper, là, mais je veux dire, si quelqu'un connaît la réponse, mais tweetez-nous.
Je viens d'atterrir sur la page francophone de Wikipédia de Deep Silver, puis il n'y a même pas de mention à THQ, fait que il doit manquer d'infos.
C'est juste marqué argent creux. traduit. Puis il n'y a rien d'autre.
Non, non, pas
mais,
à ce point-là.
Non, c'est ça. Mais d'après moi, juste comme ça, vite, vite, je me dis que ça, le développement a commencé ailleurs.
Oh, oui, sûrement.
C'est sûr qu'ils ont ramassé ça, puis ils ont terminé. Mais que le jeu soit quand même un succès commercial, puis surtout envers les fans, c'est quand même un exploit. Là. Mm-hmm. Quand tu prends le travail de quelqu'un d'autre pour le finir, c'est des fois la direction est pas toujours pareille. Si le jeu se tient quand même d'un bout à l'autre, ben.
Ah non, c'est ça. Ou, pourquoi commencer?
Ils l'ont ramassé exactement à la place où tu perds tes pouvoirs. le jeu devient plus difficile.
Ils ont fait comme ah oh, shit, on est comme coincé, on n'a pas le choix. Enlevons-les. On ne sait pas comment les faire fonctionner.
Ah, on pourrait faire que les extraterrestres lancent une bombe nucléaire sur la Terre, puis on embarque dans l'oubli. Ton personnage, finalement, quand t'enlèves la grosse masque de mascotte, c'est Tom Cruise.
Ouais, c'est Jack Reacher.
Non, Jack Harper.
Harper, ouais. Ah, peut-être.
Je sais pas s'il est cousin avec Steven.
Ah, ben écoute, je sais pas. Je pourrais pas te dire.
On lui demandera.
En tout cas, il est seul sur la planète, fait que normalement, il n'y a plus ben de famille.
Non, sûrement pas, non. Mais bon.
OK. Ben,
le côté positif de Oblivion, c'est que c'est que Stephen Harper est plus au pouvoir.
J'avoue. Vu de même.
Baliverne, baliverne.
Hey, OK, c'est assez les niaiseries. Là. Passons à la conclusion de cette émission et rappelons à nos auditeurs. Oh oui, toi qui écoutes.
Ouais, moi?
Non, l'autre.
OK, l'autre personne. Bonjour, toi.
Salut.
Salut. Ben, pas toi, là, toi, l'autre qui écoute.
Ouais, toi, l'autre, là.
Dans l'auto ou chez vous, sur ton iPod ou à la radio ou quelque chose. Mais toi, notre auditeur.
Sache que j'ai un petit quelque chose à te dire. Toi, on a un concours. Ah, tu savais pas? Réécoute le début du show, man.
ou celui d'avant.
Celui d'avant. Non, mais c'est
pas un concours, c'est parce que t'es pas assidu.
Non, ça ne va pas.
Rigueur.
Ouais, comment? Tout ça pour dire qu'on a un concours Zombie Tycoon 2 à vous faire gagner en version numérique, donc téléchargeable sur PlayStation 3. Merci à la gang de Frima Studio de Québec qui nous ont offert cette copie. podcastrealitéaugmentée@gmail.com. On vous invite à nous écrire c'est quoi le jeu qu'on fait gagner. C'est un minimum. On aime ça que les gens qui participent sachent au moins ce qu'ils ont la chance de gagner. T'sais. C'est un minimum.
Juste de même. C'est Zombie Tycoon 2. Je vous donne la réponse. Là. Chut.
Hey, toi qui nous écoutes, Luc est vraiment fin que toi.
Pèse sur Google. Ok, rouvre ton furteur. Puis là, tape gmail.com. Rentre dans ton email. Puis là, tape podcast réalité augmentée. @gmail.com, puis là, t'écris « J'aimerais gagner Zombie Tycoon 2. Merci. » Puis tu signes ton nom, puis c'est fait.
Voilà. Okay. Voilà.
Je t'ai donné cette app. J'aime ça écrire des processeurs. Ça fait partie de ma job à tous les jours.
T'es vraiment bon là-dedans, Luc.
J'essaye.
OK, bon. Luc, où on te retrouve sur le web?
Vous pouvez me rejoindre à Scalazormo sur Twitter. Facebook, je garde ça pour les amis, mais si on s'est déjà rencontrés, choses comme ça, vous pouvez toujours me faire une demande, puis je vais analyser 30 secondes avant de cliquer « J'accepte », car je mets quand même pas trop de choses personnelles dessus, fait que c'est quand même pas super. Sinon, ben il y a le site cjup.com où j'ai mon podcast qui est hébergé qui s'appelle « Histoire de Gamer », le prochain épisode s'en vient, ça a été retardé un peu, ça va aller au mois de novembre, même si c'est l'épisode d'octobre, là, bon, parce que c'est avec FDL est présentement très occupé à l'université à finir, ses mémoires et tout ça, donc on va enregistrer ça quelque chose comme le 2 novembre, donc ça va être en ligne début novembre.
Oh, ouais. Il est déguisé, là. Il est déguisé en octobre.
C'est ça. Ça va être le dernier chapitre de ça. Il y a aussi le podcast auto qui se termine dans les prochaines semaines. Là on débat à savoir si ça va être une pause ou si ça va être une fin complète. J'ai parlé à certains contacts dans le monde de l'automobile qui disent « Ben voyons, tu peux pas arrêter. C'est le fun ton stock. T'sais, continue. T'es vraiment passionné puis je trouve ça le fun que tu fasses ça. » Fait que je suis en train de reconsidérer peut-être. On va voir ça.
Tu m'avais pas dit ça? Prochaine.
Ouais, mais c'est ça. Il y a du monde qui ont l'air à aimer ce que je fais. Je trouve ça comme vraiment bizarre.
Étonnant, là,
Ouais, c'est étonnant, bizarre et totalement surnaturel. Mais bon, donc vous pouvez me rejoindre là. Il y a le site du podcast auto où vous pouvez voir ma grosse face dans certaines voitures dont je critique pas vraiment, je donne mes commentaires et tout ça. Et même si je dis que j'aime la voiture, c'est parce que j'aime la voiture. Si je l'aimerais pas, normalement, je la ferais pas. Donc, c'est à peu près ça. Et puis, toi, Jean-Benoît, si on est vraiment obligé d'en discuter avec toi parce qu'on n'a pas assez de t'entendre à la radio le matin à Passion FM ou le soir sur le podcast ou quand on t'écoute sur iTunes, comment est-ce qu'on fait cela?
Je sais plus, là, j'ai le goût de...
Ça a été long, hein, comme introduction.
Je ne sais plus, j'ai le goût de le dire, là.
Ah, tu sais, je suis un heure d'avance sur toi, fait que je sais ce que tu vas répondre, je l'ai entendu tout à l'heure.
Voilà. OK, bon, ben, c'était ça.
Tu t'es trompé, essaye de pas te tromper ce fois-là.
En plus. Je m'occupe de mon compte à moi, personnel, sur Twitter. C'est un peu normal, c'est mon compte, je suis pas assez big encore. Je ne suis pas Justin Bieber pour avoir quelqu'un qui écrit pour moi. Gang, G_B pour Twitter.
Des fois, il y a des raisons pourquoi il y a quelqu'un qui écrit pour toi.
Oui, c'est ça. C'est pour t'éviter que toi, t'écrives pour
c'est,
toi.
C'est ça. Mais sinon, ça serait toujours « yo ». Tu sais, « yo, yo », là. Ça serait juste des « yo » avec des points d'exclamation. Là.
Ouais.
Fait que c'est pour ça qu'il engage quelqu'un pour écrire pour lui qui peuvent donner vraiment du contenu.
Du contenu, ça s'achète.
Oui, c'est ça. Ça se paye. Pour le reste, il y a Mastercard.
Et oui. Sinon, je m'occupe des comptes officiels de la réalité augmentée, autant sur Facebook, cherchez-nous facebook.com/realitéhog, ou encore sur Twitter, realitéhog. C'est comme concept, là. Et on a bien sûr notre adresse courriel podcastrealitéaugmentée@gmail.com. C'est aussi simple que ça. Vous avez un commentaire, vous voulez nous saluer? Oui, je suis en train d'oublier ça. Vous voulez faire partie de notre crew sur GTA V Online? Envoyez-nous une petite demande. Dites-nous votre gamer tag. C'est sur Xbox 360. C'est la version sur laquelle j'ai acheté le jeu. Aidez-moi à critiquer le online de GTA V. Et peut-être dans un épisode prochain, vous entendrez des aventures qu'on a fait ensemble être révélées au grand public.
À date, ça a l'air c'est pas fort, le online. Ça a l'air qu'ils ont des petits problèmes majeurs.
Hey boy!
Des mini-problèmes majeurs.
Hey boy! As-tu vu la vidéo?
Non.
Non.
Non. Je vais te le dire tout de suite parce que j'ai écouté le show tout à l'heure puis parce que je sais où tu t'en vas. Non, je suis très peu le monde et le hype alentour de GTA V parce que c'est pas un jeu qui m'intéresse.
OK. Première mission pour rentrer dans le mode online, tu dois faire une course. Et une course à 8. Et donc, en principe, faut que tu attendes que les serveurs te trouvent 8 personnes pour aller avec toi. Au début, ça marchait pas. C'était compliqué. Tu te ramassais à faire la course tout seul contre un bot. Donc, quelqu'un généré par l'ordinateur, là, géré par la console. Ça marchait pas. Il y a eu un patch pour améliorer la situation. C'est pas mal réglé maintenant. Mais on se ramassait au départ à attendre de longues minutes dans un stationnement à faire des genres de petits mouvements haut et bas. Comme ça, on entendait, là, on était sur une piste de danse, puis on entendait de la musique, puis on hochait la tête au rythme de la musique pendant, comme je vous dis, là, moi, j'ai pendant une session, j'ai attendu une heure, là, puis j'ai même pas réussi. Là. Donc, c'est dire, j'ai été patient. Là. Oh, ouais, non, j'ai perdu mon temps.
T'as vraiment rien d'autre à faire.
Non, mais en fait, j'écoutais
après
la TV.
15 minutes, je serais parti.
J'écoutais la TV, je couchais, j'allais voir. Oh, encore en train de danser, j'en revirais. Et il y a des gens qui ont fait une vidéo sur YouTube à qui présente ça. Tu vois, une gang sont 7-8 dans un stationnement souterrain, puis ils sont tous en train de hocher la tête, ils attendent. Puis il y en a un de temps en temps qui s'en vient, il y en a un qui s'en va, une fois, tu sais. Puis là, ça dit genre à la fin, Rockstar, on vous aime tellement qu'on est prêt à attendre. Fait que c'est une question de rire un peu de la situation. Rockstar qui habituellement réagit assez vite aux problèmes. C'est le genre de gang qui ont des capacités économiques, matérielles, humaines, pour être capable de patcher des problèmes assez vite. Et ils ont été en mesure de le faire quand même relativement vite. Quand même relativement bon problème. J'ai vécu des problèmes de plantage, de gelage, des problèmes de connexion. C'est drôle comment est-ce que la notion de serveur est un peu vague pour la gang de Rockstar.
Ouais, ben ils ont une attitude un peu particulière aussi.
Non, mais c'est parce que à un moment donné, t'es comme, tu sais, t'as un serveur maximum de 16 personnes sur la carte en même temps. Tu vas être avec tes amis, tu te connectes sur un serveur qui sont là, OK? Tu fais une mission, OK, c'est bon, t'embarques, tu fais la mission, tu passes à travers, tu débarques. On est tous encore ensemble. Mettons que moi, je décide que je fais une mission que moi, j'ai dans mes trucs à faire puis que mes coéquipiers l'ont déjà fait. Je peux lancer la mission. Il peut y avoir des gens qui embarquent avec moi qui sont pas nécessairement sur le même serveur que moi. On l'a fait. Une fois qu'on termine, on me débarque à nouveau sur la map générale. Donc, normalement, je suis censé revenir sur le serveur que j'étais avant. Mais non. Donc, tu peux te ramasser avec à peu près n'importe qui. Fait que là, une fois de temps en temps, faut que tu fasses comme « Hey, les guys, vous êtes encore là? » Non, on n'est plus sur la même map que toi. Puis là, il faut essayer de à nouveau se rebrancher pour être tous ensemble en même place. Fait que tu sais, la notion de serveur, tu es à une place, mais tu te téléportes à d'autres places. C'est pas tout à fait béton là, pour Rockstar.
OK, ouais.
Mais bon, je vous parlerai de l'expérience plus globale de GTA dans un épisode subséquent. J'ai pas terminé encore. Il y a du stock pas à peu près. Puis je suis pas assez big pour avoir ma copie avant les autres. Fait que il a fallu que j'attende en même temps que la sortie. Fait que j'ai pas fini. Que veux-tu? Ouais. Alors voilà pour cet épisode de la réalité augmentée. Un gros merci d'avoir été des nôtres pour ce beau programme. Le prochain show, Daniel sera des nôtres. On sera revenu à notre équipe de 3. Tirage de la copie numérique de Zombie Tycoon 2. Donc, bien du matériel pour vous autres. Plein d'autres chroniques de sujets intéressants, drôles, palpitants. Avec plein d'autres qualificatifs, là, choisissez là, dans le tas. Là.
Pathétique.
Ouais,
rigolo et tout. En tout cas, il y a plein d'affaires. Juste rappeler, je n'avais parlé au dernier show, là, ceux qui veulent aller à l'événement Pokémon pour Nintendo, c'est le 11 octobre. Puis ça va se passer. Bon, j'ai omis d'ouvrir le document.
Il y a plusieurs places en Laval, Montréal, ouais, c'est Québec.
C'est à Laval, le document s'ouvre, donc patientez. T'as-tu une petite chanson pour faire patienter le monde? Tu peux chanter si tu veux. C'est ça. C'est à Laval, puis j'ai pas le bon document. Donc, c'est à Laval.
Fait que c'est à Laval, OK?
C'est à Laval. Vous allez pouvoir y aller. C'est à la Maison des Arts de Laval, quelque chose comme ça.
Vous aimez Pokémon? Trouvez un stationnement. Rassemblez-vous là. Hochez de la tête comme dans GTA. Puis attendez. Venez, ça va décoller. Ça.
Mais regardez le site. Allez sur le site de Nintendo. Je suis sûr qu'il va avoir des informations. Là, mais ça me semble plutôt à la place qu'à la Maison des Arts de Laval ou quelque chose comme ça. Mais je regarde le document que j'ai ici. Puis ça mentionne le lancement, mais ça mentionne pas la place de l'événement. Mais si vous allez dans l'émission de la semaine passée.
Ben oui.
J'en parlais, puis je donne l'adresse.
Voilà.
Fait que téléchargez l'émission de la semaine passée, puis vous allez avoir l'information. Je suis vraiment désolé, je m'en allais à quelque part là-dedans, puis ça fait...
C'est ça, hein? Être préparé.
Ben, c'est ça, être à une heure de décalage horaire.
Oui, c'est ça, tu t'es pris d'avance trop. Hein?
Vraiment, j'ai une chance que je faisais pas le show quand j'étais à Calgary, puis j'étais 3 heures en arrière de tout le monde, parce que ça aurait
Imagine.
Été laid. Ah, ça aurait été tellement laid. Mais c'est ça.
Ça, c'est le show que je t'aurais congédié après, hein? C'est ça, hein?
Ben ouais, au lieu de le faire aujourd'hui, tu l'aurais fait là, ce temps-là, ça fait un an. Tu l'aurais fait dans ce temps-là, tu sais. Mais au moins, je me suis sauvé un an de show.
T'es tellement sur le respirateur artificiel, tu le sais même pas à quel point.
Ah ben je le sais, tu viens de me dire. Donc merci tout le monde, ça m'a fait plaisir de faire partie de Réalité Augmentée. Puis bon ben, Daniel est venu, donc les applications que j'avais été envoyées vont pouvoir être utilisées pour me remplacer moi-même. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, puis donc. Je me sens tellement François Pérusse.
Ouais, un peu.
Je vais me mettre à pleurer pis tout. Je suis pas vraiment pas aussi bon que lui, puis j'ai pas le système pour changer ma voix pis tout.
En plus.
Ouais, c'est ça.
Pathétique.
Ouais, non, j'ai pas ce talent de comédien. Qu'est-ce que tu veux?
Bon, OK. Bon, c'est là-dessus
le
que ça se
fini,
termine.
Le show, c'était fini il y a 10 minutes.
Hein? Ouais, c'était fini il y a 10 minutes, puis t'es passé
d'une
date.
On fait un podcast auto de nous-mêmes. Dire que le show dure une demi-heure, puis faire 45 minutes.
Ouais, c'est notre genre.
Quelque chose comme ça.
Un gros merci, Luc.
Merci, c'est toujours agréable de se faire show-là. J'aime ça. Même si c'est animé par toi, j'aime ça quand même.
OK, on ferme les livres. Salut, à la prochaine.
Bye tout le monde.
Salut là.